Bonjour, bienvenue à la chronique du Tétalab, le bit et le couteau. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on a dépassé le quota habituel, on n'a même plus de quoi s'asseoir car on est 5. Donc comme d'hab, il y a Alex,
Bonjour.
Un petit nouveau Étienne.
Bonjour.
Et Guillaume et Vincent de
Salut.
Drink and Draw.
Salut.
J'avais prévu un petit quelque chose justement puisque c'est émission pas spéciale mais on va parler de Drink and Draw. Donc j'ai amené du banga. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer intelligemment et avec modération. Et donc, vu que drink, il y a aussi draw. Alors attention, je donne une feuille à chacun. C'est le thème, c'est un peu sur du coloriage de même.
Là, c'est des feuilles avec des mèmes dessus.
Donc, on peut le décrire. Il y a quoi dessus ?
Il y a Nyan Cat.
Le Nyan Cat.
Le Nyan Cat.
Troll Face.
Et Grand
Pink Cat.
Grand Pink Cat. Et la dernière, je ne sais pas ce que
le
c'est.
Fat Man.
Et j'ai volé.
Le Fat Man, tout simplement.
J'ai volé les crayons de couleur de ma fille.
Ah, bah,
donc,
parfait.
Allez-y. Bon, elle n'a pas l'habitude de les reboucher, donc peut-être que.
En fait.
C'est un peu sec. Comme d'habitude, une partie actu, une partie dossier, puis on parlera de Drink and Draw.
Et un petit mot sur le générique, c'était l'ouverture du 30C3
ouais.
Qui a eu lieu à Hambourg il y a 2 semaines.
Donc on commence par quoi ? Les actus rigolotes ou les actus
et
pas rigolotes ?
On parle du pad aussi,
ouais.
canalsud.tetalab.org sur internet pour accéder à toutes les infos dont on va parler. Donc il y a pas mal de liens et pour retrouver la musique. Et savoir le site du Drink and Draw, ça se trouve, et des trucs comme ça.
D'accord. Vous voulez du banga, quelqu'un ? Non, c'est bon, tout le monde a son compte. Ok, ce qui est pas drôle ou ce qui est drôle ?
Drôle ?
Allez, drôle. Donc c'est moi, les trucs drôles et pas pointus. Et... Alors, cette année, c'est cool. On a encore les Darwin Awards qui sont tombés de 2013. Donc, pour rappel, les Darwin Awards, c'est la sélection naturelle, donc c'est les pires bêtises ou les pires morts, les plus ridicules qu'il y a pu y avoir en 2013. Donc le grand gagnant cette année, c'est un gars en Californie qui a voulu faire un hold-up dans une banque. Il s'est tiré sur le banquier, mais le coup n'est pas parti. Donc il a simplement regardé dans le fût du canon, voir si ça partait, et l'arroseur a arrosé, voilà. Bon, bref. Et après, il y a certaines mentions honorables. Donc, par exemple, en Suisse, le chef d'un hôtel, il s'est coupé le doigt avec une machine pour faire de... Ils sont tous en train de dessiner, là. Ils vont pas m'aider. la machine pour faire du steak haché, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il perd un doigt. Il appelle l'assurance pour leur dire que c'est pas normal. L'assurance leur rappelle qu'il a dû y avoir une négligence. Et en fait, l'expert des assurances est venu expertiser la machine. Et lui aussi, il a perdu un doigt. au Zimbabwe, un chauffeur de bus qui devait amener 20 personnes à l'hôpital psychiatrique, il s'est arrêté boire un coup dans un bar. Et puis là, en fait, les 20 personnes se sont échappées du bus. Donc là, il s'est dit, bon, je ne vais pas me casser la tête. Il s'est arrêté à un arrêt de bus et il a dit, bon, ben moi, je prends tout le monde gratuitement. Donc il a pris 20 personnes gratuitement, il les a amenées à l'hôpital psychiatrique. Et là, il leur a dit, bon, écoutez, il raconte n'importe quoi, il délire complètement. Et ils ont mis 3 jours avant de se rendre compte de ça.
Oh, purée.
Vous en voulez d'autres ou on...
Ouais, si, encore un petit.
Allez, un petit. Alors, attendez, je... Oui, voilà. Donc, la police de Seattle, elle a arrêté un gars qui essayait de siphonner l'essence d'un camping-car. Et en fait, ils ont été appelés. Et sur place, ils sont arrivés. Et la personne était par terre, en train de se tenir le ventre. Et en fait, il s'avérait qu'au lieu de siphonner l'essence, il a siphonné le réservoir de vidange des toilettes du camping-car. Et la personne, le propriétaire, ça l'a tellement fait rire qu'il a dit que c'était bon, il avait son compte déjà. Quoi. Donc ensuite, on avait quoi ? Oui, sur c'est Étienne qui parlait de ça, du Tumblr. Ouais, vas-y, vas-y.
Ouais, c'est un Tumblr qui est très intéressant, qui est sorti assez récemment, mais il y a quand même pas mal de travail. Donc, il s'appelle moviecode.tumblr. Je vous mets le lien sur le pad. Et le principe est assez fun, c'est de retrouver et de prendre des captures d'écran de tous ceux qui ont utilisé du code dans des films, dans des séries, et de voir d'où il vient. Donc, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, c'est du code qui n'a pas grand sens. Par exemple, dans la dernière saison de Doctor Who, à un moment, on voit un bout de code sur l'écran, probablement pour faire peur. Il s'agit en fait du code, probablement, d'une page web au hasard de la BBC. Et donc ça montre des choses très intéressantes. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a vraiment un gros travail, puisqu'ils sont allés jusqu'à retrouver exactement le code précis. Donc par exemple dans la série télé Révolution, ils étaient jusqu'à retrouver que le code qui est montré, c'est le code de Prince of Persia sur Apple II. Donc c'est vraiment des... Donc il y a vraiment un gros travail pour quelque chose de complètement inutile. Et c'est utile, donc indispensable.
Ouais, c'est souvent dans les films de hackers où c'est complètement... Quand on connaît un peu l'informatique, c'est à chaque fois complètement risible. Ils rentrent dans des univers en 3D et tout pour aller pirater. Enfin bref, il y a peu de films qui... Et il y avait aussi Les Experts. Tu m'en parlais tout à l'heure de... Dans Les Experts, l'épisode, ils trouvent des papiers avec du code censé être fait par des terroristes. En fait, c'est une page HTML piquée sur un gadget ou un truc comme ça, quoi.
Ah,
donc, vachement,
on a peur. Hein.
Voilà, donc bon, ben là, c'était la petite partie rigolote.
Avec donc, des réactions sur le pad qui nous demandent s'ils ne sont pas tombés sur l'émission des grosses têtes.
Qui ?
Quelqu'un.
D'accord.
Un anonyme.
Donc maintenant les actus pas drôles. Donc on avait déjà parlé la dernière fois, c'était quoi début décembre, de la loi sur la programmation militaire, dont le fameux article 13 qui maintenant est devenu l'article 20. Donc cette loi a été promulguée fin décembre, elle a été votée par le Sénat. Il n'y a pas eu de directive d'aucun député pour essayer que ça repasse au Parlement. Donc, pour vous mettre dans le bain de ce que ça implique, je vais y faire assez simple. Donc, ça concerne la collecte en temps réel ou non des données que tous nous échangeons sur le net. Ça va être collecté par qui ? Par des agents du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances. Donc déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va faire dans une loi de programmation militaire ? Mais bon... Et en fait, ils vont passer par tout ce qui est FAI ou les services en ligne sur lesquels on a toutes nos infos. Donc ça veut dire les webmails, Facebook, Google et co. On pourrait se dire, bon, ben, si ça cible certaines personnes, ça peut être bien pour les pédonazis et consorts. Mais en fait, ça va être une collecte massive comme ce que fait la NSA avec Prism. Et ça passera pas par un juge, quoi. Donc ça va être, c'est la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui va nommer un type qui sera seul à décider si la collecte des données est justifiée ou non. Et la personne, le président de cette commission, il va être désigné par le président de la République. Donc tout de suite, on sait que ça va être totalement objectif. Il n'y a pas de problème, quoi. Et donc tout sera intercepté, quoi. C'est info de géolocalisation, info de connexion, info sur le type de terminaux, les gens qu'on contacte, la date, la durée des échanges, etc., etc. Donc bon, ben, en fait, j'en parle un peu, mais tout le monde s'en fout, en fait.
Et c'était juste pour être sûr qu'on fasse rien d'illégal, vu que c'est ce qui se fait tous les jours à peu près normalement.
Oui, non, en fait,
ils
ont officialisé quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps. Et donc, je rebondis sur ça. Tiens, tu avais des infos là sur la NSA qui fait des trucs un peu de...
On en parle peut-être dans le
dossier du 37.3.
Mais ouais. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de révélations en décembre sur les activités de la NSA.
Qui se sont bien fait avoir sur tout leur catalogue de technologies qu'ils avaient en place. Et voilà, on sait ce que la NSA a, on se doute de ce que les autres pays ont aussi. Ouais.
Donc ben, on parle du 37.3 ou de HTTPS ?
HTTPS, ouais, ça a l'air pas mal.
Bon allez, mais alors je propose de vous parler rapidement d'HTTPS parce que disons que c'est un des rares protocoles de sécurité qui est vraiment utilisé. Donc HTTPS que vous utilisez pour faire vos achats en ligne. Donc à chaque fois qu'il y a le petit cadenas, en fait, c'est du HTTPS, ça vous dit que c'est sécurisé. En dessous, il y a un protocole qui s'appelle TLS ou SSL. Donc pour faire les bases, c'est basé sur la cryptographie, qui est une science qui permet de masquer un code, basé sur des principes mathématiques. Donc il y a deux principes, deux systèmes principaux. La cryptographie symétrique, on a une clé qui permet de transformer un texte clair en quelque chose d'incompréhensible, et la même clé permet de revenir au texte clair. On sait ce qui a été utilisé par César et puis qui a été complexifié maintenant qu'on a de l'informatique. Ça pose le problème qu'il faut changer les clés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se promenaient avec des livres entiers de clés pour être sûr de les changer régulièrement. Et donc, il y a une grosse partie de l'armée française qui arrive à récupérer ces catalogues de clés qui n'avaient aucun problème pour déchiffrer, du coup.
Les attaques...
La machine Enigma, c'est ça ?
Ah ouais, en fait, à la base, ils n'ont pas eu besoin de casser la machine Enigma parce qu'ils arrivaient à récupérer les livres de clés qui leur permettaient de déchiffrer. Donc, ils comprenaient comment elle marchait, ils avaient les clés, ils déchiffraient.
Ils attaquaient les sous-marins allemands, par exemple. Les U-boats allemands, qui étaient des sous-marins très efficaces pour faire tomber les... Ouais. Et du coup, ces sous-marins partaient avec quelques mois de clés dans le sous-marin. Et le but, c'était d'aller intercepter un sous-marin et récupérer les clés pour quelques mois.
Et il testait toutes les clés une à une ?
Non, les clés changeaient, je sais pas, il devait avoir peut-être une clé par semaine ou une clé par mois ou quelque chose comme ça. Donc il récupérait ce livre de clés et puis déchiffrait tous les messages sans avoir besoin de casser réellement le système cryptographique.
Je me souviens plus du nom de l'opération aussi, mais les Américains ont intercepté un livre de clés russe dont ils se sont servis pendant plusieurs années d'affilée. En gros, il n'y avait personne pour renouveler le livre, et entre 41 et 46, je crois, les Russes utilisaient le même livre de clés que les Américains avaient intercepté, du coup ils pouvaient écouter plusieurs centaines de milliers de messages tranquillos.
Ouais, 1-2-3-4 ou AZERTY, non, des trucs comme ça.
Non, c'est des complexes, mais vu qu'il les récupérait,
mot de passe.
Et donc jusqu'à peu près les années 70-80, on n'avait pas de solution à ça, et donc il y a une solution qui a été inventée qui s'appelle la cryptographie asymétrique. Et le principe, c'est d'avoir deux clés, une clé qui permet de chiffrer et une clé qui permet de déchiffrer. Donc si on chiffre avec la clé, donc tout le monde a une clé privée, une clé publique, la clé privée de la garde, la clé publique, il la donne à tout le monde. Et si on chiffre avec les publics de quelqu'un, on est sûr que lui seul pourra déchiffrer, vu que c'est le seul à avoir la clé privée. Donc c'est là-dessus que repose la plupart des algorithmes des protocoles de cryptographie, notamment TLS qui est utilisé pour HTTPS, donc la sécurisation sur le web. Ça pose le problème que même avec ça, il faut être sûr qu'on a bien la bonne clé publique. Si je veux communiquer avec canalsud.tetala.org, je veux être sûr que j'ai bien la clé publique de canalsud.tetala.org. Donc pour ça, il y a un système qui a été mis en place, qui est un système de cryptographie à clé publique. Et le principe, c'est qu'on a des autorités de certification, donc à la base, il y en avait une ou deux. Donc ces autorités de certification, on les connaît, on connaît leurs clés, elles sont dans le navigateur en dur. Et elles, ces autorités, vont générer un certificat qui va garantir que la clé, par exemple, de tetala.org, c'est celle-ci, et avec la signature. Donc on va regarder tetala.org, on va regarder la clé qui est donnée, on va regarder le certificat, on va dire, tiens, c'est signé par telle autorité de certification, est-ce que je connais sa clé ? On va pouvoir vérifier toute la chaîne et s'assurer qu'on a bien la bonne chose. Donc ça, c'est le principe. Et donc quand vous avez tout ça, vous avez le joli cadenas vert qui s'affiche, et donc vous allez sur votre site de vente en ligne préféré et tout va bien. Quand vous n'avez pas tout ça, vous avez souvent un gros message d'erreur qui s'affiche en disant attention, vraiment là, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer ?
Genre si vous allez sur canalsud.tetala.org, vous avez eu ce gros truc rouge.
Pour la bonne raison que pour effectivement avoir un certificat valide, il faut payer les autorités de certification, et certaines autorités de certification que je ne citerai pas s'en mettent quand même plein de les poches, il faut le dire.
Ça coûte, c'est de quel ordre pour faire certifier une clé ?
Il y en a des gratuites, non ?
Il y en a des gratuites, mais qui ne sont pas reconnues par les autorités de certification. Sinon, c'est pour la même chose, c'est entre 40€ et 400€ pour un certificat de base. Après, bon, il y a des améliorations.
Pour une durée précise ?
C'est pour un an, souvent. On demande de renouveler tous les ans.
Pourquoi ça n'a pas été... c'est pas... Comment ça s'appelle ? Les organismes publics qui font ça ?
Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu d'organisation qui soit... quelque chose qui dise public et qui fasse ça. Quoi. Parce qu'il y a quand même du travail derrière pour vérifier...
En interne, ils font ça, par exemple, au gouvernement, où ils se sont bien foirés le mois dernier, où ils ont foutu un faux certificat à Google.
Effectivement, il y a un certain nombre de gouvernements qui ont des autorités de certification, mais ce n'est pas pour le grand public, c'est pour leur
réseau interne.
Propre, exactement. Sinon, pour le grand public et pour les entreprises, c'est payant, donc il y a un certain nombre d'autorités de certification aujourd'hui qui existent. Donc là, on a parlé de ce qui marche. Maintenant, évidemment, on va parler de ce qui ne marche pas. Donc le problème, déjà, c'est la cryptographie. C'est-à-dire que si ce que vous utilisez à la base, donc les algorithmes de cryptographie symétrique ou asymétrique, ne marchent pas, bah, tout s'écroule. Donc c'est vrai pour la plupart des solutions de sécurité. Donc si aujourd'hui, il y a une faiblesse dans des protocoles, on a un problème. Heureusement, TLS permet de changer de protocole. Donc régulièrement, il faut faire attention, quand on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle vulnérabilité dans un protocole, de l'enlever et d'être à jour sur la liste des protocoles. Le deuxième, c'est protocole dans le design, dans l'implémentation du protocole lui-même, le problème de sécurité. Donc là, ça fait quelques années que tous les ans, dans une grosse conférence, il y a un nouveau problème qui arrive. Et on s'aperçoit qu'il faut ou faire une mise à jour, ou faire un design, ou faire une nouvelle version du protocole, etc. Donc ça veut dire qu'il faut corriger, suivre les évolutions. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a eu, c'est des attaques qui sont vraiment complexes. Donc c'est des attaques qui sont théoriques et qui n'ont jamais été faites, mais on sait qu'elles sont possibles. Donc il faut suivre l'actualité en détail, sachant à peu près tous les ans. Quoi.
Et les mises à jour, elles sont à quel niveau ? C'est sur ton navigateur ou
Alors c'est des mises à jour, ouais, des librairies utilisées par le navigateur. Etc.
Donc exactement. Si tu ne mets pas à jour
Le problème, c'est que tu as vraiment deux choses. Il faut que ton navigateur soit bien fait. En général, c'est assez centralisé, le navigateur. Il y en a 3-4 gros qui font ça, qui essaient de faire bien. Le problème, c'est souvent le serveur. C'est-à-dire que s'il y a une discussion entre le client et le serveur, le navigateur va dire voilà ce que je supporte. Le serveur va dire moi, je connais celui-là, on parle comme ça. Si le serveur accepte que des protocoles qui sont faibles, il y aura un problème. Donc il y a un travail à faire côté serveur aussi pour s'assurer qu'on a bien une configuration qui est sécurisée, quitte à bloquer des navigateurs qui ne les permettent pas. Quoi. En général, les navigateurs sont mis à jour assez vite. Et donc il y a également une mauvaise configuration. Donc 30% des sites ont des suites cryptographiques qui sont mauvaises. Et on va en arriver au plus gros problème, c'est le problème dans l'écosystème. Donc on parlait effectivement, donc tout repose sur la confiance qu'on a dans ces autorités de certification. Donc on a parlé déjà qu'il y a plusieurs États, donc la Chine, la France, les États-Unis, qui ont des autorités de certification pour elles. Donc ça veut dire une autorité de certification est capable de faire une clé, un certificat pour n'importe quel site. Donc ça veut dire que demain, si vous allez sur, admettons que vous êtes un État, que vous voulez voir une communication chiffrée, en fait il suffira de vous mettre au milieu de la communication et puis d'aller donner un faux certificat qui sera valide puisque vous avez une autorité de certification et le navigateur va dire c'est ok, mais en fait vous serez au milieu et vous allez pouvoir modifier et voir tout ce qui se passe.
Toutes les attaques qu'on appelle man in the middle.
Exactement, c'est une attaque man in the middle, exactement. Donc ça veut dire que pour les attaques actives, c'est pas simple de faire une attaque active. En tout cas, ça se fait pas à l'échelle de millions de personnes comme le faire la NSA. Donc c'est pas simple, mais en tout cas, la plupart des États occidentaux, je sais pas, j'ai pas la liste exacte, sont capables de faire ça.
En fait, le plus simple, c'est d'avoir les organismes de certification dans la poche, non ?
C'est ça, mais il y a une autorité de certification pour l'État américain, donc...
Donc la NSA...
Donc la NSA peut probablement faire ça. Bon, ceci dit, c'est pas trivial, parce qu'il faut se mettre au milieu de la communication, il faut aller faire cette modification, ça peut être détecté, c'est pas trivial.
Okay.
Ensuite, si on n'a pas ça, la solution, c'est d'aller de rentrer dans le réseau d'une autorité de certification. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, on pense que c'est quelqu'un qui est pas très proche du gouvernement, qui est assez proche du gouvernement iranien, puisqu'en 2011, il y a une autorité de certification qui s'appelle DigiNotar, qui est allemande. Et on s'est aperçu que quelqu'un était rentré sur le réseau, avait récupéré les clés, avait généré des certificats pour étoile.google.com et que ça avait été utilisé pour sniffer le trafic vers Google en Iran.
D'accord.
Et l'Iran n'a pas d'autorité de certification a priori dans les États. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce problème de sécurité et des autorités de certification, il y en a vraiment beaucoup. L'EFF avait fait un recensement en 2010 et ils avaient recensé plus de 650 autorités, alors ou RACIN, c'est-à-dire les autorités de certification que vous connaissez dans le navigateur, mais elles peuvent également donner le droit à des autorités intermédiaires de faire eux-mêmes des certificats. Ils avaient recensé 650 autorités dans le monde capables de faire des certificats pour l'ensemble de la planète. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un souci. Et on en arrive à des très jolis articles de blog qui titrent en gros SSL est cassé. Et un gros problème de TLS, de ce problème d'autorité de certification, c'est que quand vous faites confiance à une autorité de certification, vous avez travaillé avec, avec Komodo. Si n'importe laquelle des 50, 60 ou 650 autres se fait péter la gueule parce qu'il se fait rentrer sur les serveurs et on peut générer des certificats avec, ils vont pouvoir attaquer tous les autres, y compris ceux qui n'ont jamais vu. C'est-à-dire que vous travaillez avec Komodo, vous faites confiance avec Komodo, mais la sécurité est basée sur la confiance que vous avez dans tous les autres que vous ne connaissez absolument pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors donc ?
Alors, on est arrivé avant déjà de parler vraiment de ce qu'on a appris sur la NSA en 2013. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas trivial. C'est-à-dire que pour vos achats de Noël en ligne, vous avez les États qui peuvent le faire. Bon, normalement, il y a peu de chances que la NSA vienne voir vos achats de Noël en ligne. Vous avez des personnes qui peuvent rentrer sur les autorités de certification, ça court quand même pas les rues. Donc, pour des achats triviaux, pour des communications triviales, ça va. Pour la communication vraiment importante militaire, effectivement, ça pose sérieusement un problème, ou des choses très personnelles, quoi. Alors il y a plusieurs solutions, il y en a une qui s'appelle DN qui semble être la solution principale qu'on va adopter, c'est-à-dire qu'on va se baser sur l'architecture de DNS qui permet de faire le lien entre un nom de domaine et une adresse IP. Pour DNS, on lui donne Google ou tetalab.org et il nous donne l'adresse IP. Ben, on va faire la même chose, mais simplement on va lui donner tetalab.com et il va nous donner le certificat ou la clé publique. Donc aujourd'hui, DNS n'est pas sécurisé, donc ça ne sert à rien, sauf qu'il y a quelque chose qui s'appelle DNSSEC qui est en train d'être déployé et qui va permettre avec des outils cryptographiques de s'assurer que ce qu'on reçoit par le DNS sera sécurisé. Et donc ça semble être la meilleure solution qui arrive, mais ça ne sera pas déployé avant quelques dizaines d'années, ça commence à être déployé, on commence à avoir du DNSSEC, mais c'est pas du tout grand public. Monsieur Mamichu aujourd'hui n'utilise pas du tout DNSSEC.
Et donc il y aura des autorités de certification de DNS comme dans l'ancien problème.
C'est pas des autorités de certification de DNS. Le DNS, il y a une architecture, donc, c'est-à-dire que par exemple tetala.org, mm-hmm. il va y avoir donc la racine des DNS qui va avoir une clé, qui va signer .org, qui va lui-même signer tetala.org, et donc on va se baser sur toute cette chaîne. Donc effectivement, si la racine est compromise, tout est foutu. Mais si .org est compromis, il y a uniquement que tout ce qui est .org qui sera compromis. Donc ça veut dire que si on... Et donc effectivement, après, on a cette racine. Donc si on a tetala.org, si on a canalsud.tetala.org, il faudra signer. Et si tetala.org est compromis, c'est uniquement canalsud qui sera compromis. Donc on enlève ce problème TLS qu'il ne faut pas se baser... Il faut pas avoir confiance en tout. Il faut avoir confiance uniquement dans, par exemple, .org pour avoir tetala.org.
OK.
Et ensuite... Il y a les problèmes, il y a des solutions qui existent qui sont un peu à l'arrache, comme Google qui a mis en place de la surveillance, qui surveille tous les certificats, notamment Chrome. À chaque fois qu'on va sur Google, Chrome regarde si le certificat a un problème ou pas, et s'il a un problème, il envoie direct un message d'alerte à Google. Et c'est notamment ce qui s'est passé avec l'autorité française il y a un mois, puisque Google a détecté que l'autorité gérée par l'ANSSI avait fait des faux certificats pour google.com. A priori, l'ANSSI a communiqué en disant que c'était une erreur humaine. On a vu ça plusieurs fois dans le cas où des sociétés veulent sniffer les communications HTTPS sortantes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malware, etc., ou de données qui sortent. Et normalement, ils sont censés utiliser une autorité de certification interne, donc reconnue que dans la boîte, mais ça arrive quelques fois qu'ils allaient un peu plus loin que ça et utilisent une autorité de certification.
Parce qu'en ce moment, en tout cas les dernières années, il y a pas mal de programmes anti-leaks qui sont mis en place dans ce genre de système, donc qui évitent justement des documents confidentiels, sortent des instruments gouvernementaux et choses comme ça, et donc c'est possiblement une mise en place d'un outil...
Complètement, mais c'est mis en place aujourd'hui dans pas mal de grosses entreprises, ça coûte assez cher, mais il y a des outils sur le marché qui existent, on met un certificat, on clique et ils font tout et ils sniffent tout HTTPS. Ceci dit, c'est quand même pour faire de la surveillance du réseau interne, donc c'est beaucoup moins choquant que si ça avait été utilisé pour mener des attaques comme ça a été fait par exemple en Iran.
Et la NSA ?
Et alors la NSA rapidement, alors c'est vrai que depuis en 2013, il y a un grand nombre de révélations Snowden, on a parlé d'une tout à l'heure, mais c'est parmi les dizaines qu'il y a eu, et a priori il y a encore plusieurs milliers de documents qui sont en attente de sortir. Ce qui est ressorti en tout cas, c'est que la NSA a beaucoup de budget pour des attaques. Alors ces attaques se basent sur des backdoors dans les logiciels. Donc effectivement, bon, si vous comprenez votre ordinateur de toute façon, ou le serveur, de toute façon c'est foutu, mais il y a des backdoors dans les logiciels de cryptographie, donc on sait qu'ils ont un budget qui est énorme par an, je crois 250 millions par an, pour payer des entreprises pour mettre des problèmes de sécurité dans leur logiciel de cryptographie.
Donc on ne peut plus avoir confiance dans les logiciels de cryptographie, c'est pas
Alors
possible.
C'est très difficile d'avoir confiance dans les logiciels de cryptographie. Une des réactions qu'il y a eu face à ça, c'est des gens qui ont dit il faut qu'on soit sûr de nos logiciels qu'on utilise, et pour ça il faut des logiciels qui soient open source, qui soient publics et qui soient audités. Mais c'est pas simple d'auditer un logiciel parce qu'il faut avoir vraiment des grosses compétences. Donc ce qu'ils ont lancé, c'est du crowdfunding pour payer des gens compétents pour auditer TrueCrypt. Ils ont dit on va partir quelque chose, donc TrueCrypt qui est une solution de chiffrement de disques et de fichiers. Et ils ont dit ok, on fait une quête, et donc il y a des gens très compétents qui ont commencé aujourd'hui à être payés pour vraiment aller voir le code TrueCrypt ligne par ligne et regarder s'il y a des problèmes de sécurité, en se disant que on peut jamais garantir que c'est bon, mais en tout cas on aura une meilleure confiance là-dedans, et donc on aura quelques outils petit à petit qui vont se faire dans lesquels on aura confiance. Mais effectivement, ça pose le problème de tous les logiciels propriétaires qui sont utilisés massivement dans les entreprises. Et donc là, on ne sait pas ce qui se passe, d'autant plus qu'une grande partie d'entre eux sont souvent développés par des entreprises américaines ou d'autres pays sur lesquels le gouvernement peut appuyer. Ça nous amène au problème suivant, c'est que la NSA a aussi travaillé sur des standards d'algorithmes de cryptographie. Et a été une référence à aider à mener les standards. Et donc ce qui sort, c'est qu'a priori, dans ces standards, ils auraient mis des faiblesses. Alors aujourd'hui, il y en a un qui a été découvert, qui s'appelle DualEC-DRBG, qui est un algorithme de génération de nombres pseudo-aléatoires. Et donc on sait que depuis 2005, il y a des faiblesses, et avec la révélation Snowden, on se dit que c'était sans doute pas une erreur que la NSA avait fait. Et bon, jusqu'à présent, personne ne l'utilisait, sauf l'entreprise américaine RSA qui a dit « Ah, en fait, désolé, en fait, on l'utilisait par défaut, on en a dit à tous nos clients qu'il fallait enlever. » Et ce qui est sorti la semaine d'après par Reuters, c'est de dire qu'en fait, il se pourrait que la NSA ait payé cette entreprise pour utiliser quelque chose de faible, un algorithme faible.
Ouais, c'est même sûr.
RSA a
moi, plus rien m'étonne avec la NSA. Là, ce que tu montrais, qu'ils interceptaient les portables qu'on achète en ligne, c'est ça ?
Oui. Alors, on va en parler après, mais une des choses qui est sortie, peut-être j'ai introduit le sujet rapidement. Mais
on passera après parce que je dois aller chercher un carnet que j'ai oublié.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc, on se fait une petite pause musicale.
Mm-hmm.
Je sais pas ce que c'est en premier.
C'est Brett Domino.
Ouais, cool.
like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. We're up all night to get lucky. 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 We're up all.
Oui, c'est bon.
C'est bon. Donc, nous avions Daft Punk qui reprenait Brett Domino Trio.
Ou l'inverse.
L'inverse. Donc là, on va se détendre un petit peu, là. Hein, on est chaud, on a bien dessiné.
On a bien colorié.
On a vraiment bu notre banga. Donc, on va parler avec Guillaume et Vincent de Drink and Draw. Donc, qu'est-ce donc?
Le Drink and Draw, c'est une animation qu'on fait dans les bars de Toulouse depuis 5 ans. Donc Vincent avait commencé...
j'ai commencé, c'était mai 2009.
Ok, et voilà. Après, moi je me suis greffé, donc moi je suis Guillaume, et je me suis greffé dessus, et on a continué de faire la grande transhumance de tous les bars de Toulouse en essayant d'amener le drink and draw un peu partout dans les bars. Donc on en a fait plusieurs sur la ville, et d'accord. Cette année ça se passe à la mécanique des fluides.
D'accord, ouais. Cette année vous êtes en résidence.
Ouais,
c'est ça, on est en résidence pendant un an.
Ça vous est venu d'où cette idée? Déjà expliquer le principe, parce qu'on n'a pas expliqué
le principe. On n'a pas trop expliqué. Le principe, nous on propose une animation de dessin pour petits et grands, amateurs et professionnels. Le mec qui dessine tous les jours et celui qui n'a pas dessiné depuis les primaires. On essaye d'avoir chaque fois une animation qui va regrouper tous ces gens-là autour d'un jeu. Alors ça peut être vraiment divers et variés, il y a plein de choses, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais voilà, donc du coup le but c'est vraiment de centraliser tout le monde sur la bonne humeur. C'est pour ça qu'on fait ça dans un bar, parce que du coup c'est plus convivial et on touche un public qui n'est pas forcément là pour ça.
Et il y a du banga.
Il y a beaucoup de mangas.
Bah, s'il y a des enfants, il dit qu'il peut y avoir des enfants.
Ouais, non, tout à fait, non. C'est, on a des copains qui viennent avec leurs gamins et tout, ça se passe très bien. Ils s'amusent autant que leurs enfants. Ouais, c'est...
Tout à fait.
C'est assez fédérateur, du coup.
Ok. Bon, j'adore ton t-shirt. Mais sinon, l'idée vous est venue d'où ?
Alors l'idée, c'est que le terme drink and draw, il existait déjà depuis bien longtemps, vu que ça vient des États-Unis. C'est deux dessinateurs, Dan Panosian et Dave Dunson, qui sont des dessinateurs professionnels chez Marvel, DC, tout ça. Et ils avaient trouvé un moyen de se retrouver entre potes dessinateurs dans un bar. Ils avaient appelé ça le drink and draw. Donc c'était vraiment des professionnels qui venaient et qui venaient dessiner détendu. Et nous, quand je l'ai lancé, je l'avais lancé vraiment dans cet esprit-là, c'était avec des copains dessinateurs, on se retrouve dans un bar, on dessinait, on trouve un thème, on faisait un truc comme ça. Et puis on a commencé à voir que ça plaisait aussi un petit peu aux voisins qui n'étaient pas du tout dans le truc. Et avec Guillaume, on a eu un peu plus tard l'idée de vraiment arrêter de faire ça un truc entre nous. Parce que déjà, les potes dessinateurs, ça les faisait un petit peu chier de revenir attaquer, dessiner. Parce que c'était au début, c'était vraiment la feuille blanche, un thème, et chacun dessine. Et puis après, on a commencé à se dire, bah, tiens, ça peut-être pas mal de faire sous forme de jeu et tout ça. Et le déclic, on l'a eu quand on a fait un drink and draw robot, où en fait, on avait des silhouettes de robots sur des cartons, et il fallait les customiser avec ce qu'on voulait. Donc il y avait des gommettes, il y avait des feutres, il y avait même du tissu, il y avait plein de trucs. Et ça a super bien marché, ça a plu vraiment à tout le monde. Et c'est là où on s'est dit qu'on tenait quelque chose et que c'était plus vers ce genre de truc qu'il fallait aller et arrêter de faire la feuille blanche bête et méchante qui finalement sert à rien. Ouais. Enfin, dans l'esprit quoi.
Et souvent même ceux qui dessinent le moins ou qui sont un petit peu peureux vis-à-vis du dessin au premier abord sont ceux qui sortent les trucs les plus créatifs ou inventifs au final sur la soirée quoi.
Ouais,
et
puis ça aide bien.
Et puis le manga ça aide pas mal.
Ça désinhibe.
et donc là en ce moment vous êtes où ? C'est ça.
Ah, donc on est à la mécanique des fluides et justement il y a le drink and draw demain, vendredi.
Demain soir.
Vendredi.
Ça tombe bien alors.
Voilà.
Quelle coïncidence.
C'est fou.
Et c'est à quelle heure? Quel est le thème? C'est où donc la mécanique des fluides?
Ah, oui.
Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a un
c'est
droit
gratuit.
D'entrée?
Alors bah, donc c'est à 19h, c'est gratuit. Vous pouvez venir avec tout le monde, il n'y a pas de place réservée ou quoi. Venez avec tous vos amis. Cet épisode là on le fait avec un groupe donc qui va jouer en parallèle et donc eux avaient proposé qu'on fasse les pins up, ouais.
Les pins up.
Ils avaient proposé qu'on fasse un truc déguisé donc du coup ce soir nous on va proposer à tout le monde de faire des masques et ceux qui arrivent déjà déguisés à la soirée je crois que le bar donne un shooter gratos.
Le shooter est gratos, ouais.
Donc attends, ce soir vous allez faire des masques ou
non,
c'est
non,
demain
soir, demain soir,
ouais, ce le soir, soir. Ouais, ouais. C'est vendredi.
Donc il faut arriver déguisé quoi.
C'est mieux.
Ouais. C'est qui juge du déguisement?
Ah, il y a pas de juge.
Je crois que c'est le barman qui sert, qui choisit.
Ah ouais, bon, ouais. Oui, ouais, ouais. Pour les shooters. Mais après pour ce qui est nous, ce qu'on fait, nous on s'en fout. Les gens viennent déguisés, on fait des masques qui sont bien ou pas bien, on s'en fout tant qu'on s'amuse en fait.
D'accord.
Et la mécanique des fluides, c'est un place Riquet, c'est juste en face de la piscine au Lagrange. Il y a une petite place et voilà, c'est là.
Et vous avez prévu de faire une franchise, que ça se développe dans d'autres villes
Bah, le terme drink and roll déjà ne nous appartient pas, donc c'est un peu difficile de faire une franchise d'un truc qui n'est pas à nous.
Parce ouais, mais faire ça existait déjà chez Fluide Glacial, quand ils font leur repas chaque mois,
voilà.
Ils dessinent dans les marges.
Ouais.
Les Américains, ils n'ont rien inventé.
Ils ont juste sorti le terme drink and roll,
d'accord.
Qui vient des USA. Nous, on a repris le terme, mais finalement, on n'a plus grand-chose à voir avec le débat. Sauf qu'on est dans un bar et qu'on dessine. Donc on picole et...
Il est où ce bar? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais...
Un place Riquet.
Fallait écouter.
Mais non, j'ai pas entendu.
Voilà.
Un place Riquet à la mécanique des fluides, ouais.
Juste en face de la piscine de Lagrange, sur une petite place.
Donc c'est pas prévu de se développer dans notre ville, d'avoir
des
contacts?
En fait, il y en a plein. C'est des groupes spontanés qui se font. Nous, des fois, on centralise là sur Facebook. Il y a plusieurs drink and draw qui viennent vers nous en disant « Ah ben nous aussi, on le fait dans telle ville » ou... Enfin, voilà.
Ouais, et j'ai même été contacté par un mec qui le lançait à La Réunion. Donc si à La Réunion nous écoute...
il y a un
drink and draw près de chez vous.
Et si vous
on nous écoute pouvez... sur internet, www.canalsud.net.
Parfait.
Et sur le pad aussi.
Ouais, et pour avoir les infos de quand vous le faites, tout ça, c'est où qu'il faut...
Là, on va mettre le lien donc, sur le pad.
Sur le pad,
sinon,
ouais.
Le plus simple, c'est sur, nous, c'est sur le Facebook Drink and Draw Toulouse sur Facebook.
On n'a pas Facebook.
Mais ça, c'est bien qu'on ne l'ait
après,
pas. Et sinon,
on a
un site
aussi,
beaucoup plus autonome.
www.drinkandraw-tls.org.
D'accord.
Mais on filera ça sur...
Ou sinon, vous venez tous demain.
Voilà, ça sera plus simple.
Verrez, ouais.
Ouais, c'est plus facile.
Le live, c'est mieux.
Voilà, exactement.
Ok. Bah, je vous laisse continuer à dessiner. Hein.
On continue à dessiner.
Donc, c'était quoi, le 37-3 ?
30C3, ouais.
Allez,
on va
go.
Pouvoir continuer là-dessus. Je remets le casque. 30C3, donc c'est un festival qui a lieu tous les ans, organisé par le CCC, c'est le Chaos Computer Club, d'Allemagne.
Oui.
Donc voilà, c'est une grosse asso en Allemagne avec 4500 membres, là j'ai appris. Voilà, c'est quand même assez balèze, 4500 personnes qui se retrouvent dans cette association.
Ah, ils doivent pas se retrouver le mercredi dans un container. Hein.
Et j'ai aussi appris qu'il y avait 24 sous-branches partout, dispersées partout en Allemagne, avec 3 ou 4 gros groupes. Donc il y a Berlin, Hambourg et une grosse ville au sud, je me souviens plus, désolé. Mais ouais, il y a 24 branches du CCC qui organisent des événements un peu partout en Allemagne pendant l'année. Et donc là, ils organisaient leur 30e Chaos Communication Congress. Voilà, ça fait 30 ans, je crois que ça a commencé en 84 ou 83, donc quand on était tout petit. Et donc c'était le gros anniversaire. C'était le gros anniversaire décimal de cette conférence.
D'accord.
Donc tout à l'heure, on a entendu une partie dans le générique que vous pourrez retrouver sur le pad canadsup.tetail.org. On a entendu une partie de leur séquence d'ouverture, où ils ont fait un gros mapping et qu'on peut retrouver sur internet aussi une vidéo de l'opening event, un gros mapping qui retraçait un peu des images des derniers festivals et voilà, et de l'opening event qui a été aussi géré par Tim Printlove, quelqu'un du CCC, qui expliquait pourquoi cette année il n'y avait pas de sous-titres au festival. Normalement il y a des sous-titres. L'année dernière, le 29C3, c'était Not in my department. Chaque année, il y a un petit sous-titre qui donne un peu le thème du festival. Et cette année, ils n'ont pas réussi à trouver des mots assez forts pour exprimer ce qui a été ressenti suite à toutes les révélations Snowden dans l'année. Donc voilà, donc, pour vous dire que toutes les conférences dont je vais parler, vous pouvez les retrouver sur media.ccc.de. C'est un site où vous retrouvez toutes les conférences du CCC qui ont eu lieu, les lectures. Tu le mets sur le pad,
ouais.
Très bien. Donc voilà, on retrouve toutes les lectures. Vous pouvez faire des recherches pour essayer de retrouver ce dont je vais parler. Donc la conférence d'ouverture Tim Printlove. Je vais vous parler jour par jour des différents trucs que j'ai vus et qui étaient vraiment bien. Tout de suite après la conférence d'ouverture, il y a eu ubermorgan.com, donc une artiste qui fait de l'art numérique depuis les années 90. Et qui raconte sa vision de comment la mentalité a changé depuis qu'on est passé sous des lois antiterroristes. Donc voilà, pour un travail artistique un peu subversif sur Internet, finalement elle est passée en mode super opprimée. Donc elle pouvait certaines choses, elle savait qu'elle pouvait plus le faire. Et voilà, sur un développement de pensée artistique, ça l'a bloqué.
Elle est de quel pays ?
Je vais dire connerie, je sais pas.
Ça doit sûrement dépendre de certains pays.
Général, dans les pays occidentaux, les lois antiterroristes. Les lois antiterroristes dans les pays occidentaux, ça aide pas. Toujours au premier jour, une bonne conf sur. S'appelle rapidement Good BIOS. Je me souviens pas du titre entier de la conf. Good BIOS, c'est quelqu'un qui explique comment les BIOS sur les ordinateurs. Donc le BIOS, c'est la partie qui démarre la machine en elle-même. Et qui, dont tout dépend, si vous avez Windows ou Linux, ça commence par le BIOS et ça arrive sur un système d'exploitation. Donc comment le BIOS est attaqué par la NSA ou par d'autres agences sécurité, ou par même des entreprises, ou par votre ex qui a envie de savoir ce que vous faites sur votre ordi. Si vous avez un ou une ex très forte en informatique.
En général, elle pète tout. Hein. Enfin, j'ai vu des vidéos.
Donc voilà, et donc une super conférence sur du coup comment se protéger par rapport à la machine qu'on a. Et en plus d'installer un BIOS libre sur lequel on sait un peu quel logiciel tourne, comment limiter les accès à l'ordinateur. C'est toujours on va parler beaucoup de la NSA, de ce qui a été découvert. Un des points d'attaque, c'est que l'ordinateur peut émettre à travers les enceintes des ultrasons, et qu'un autre ordinateur à côté de votre ordinateur, donc votre ordinateur n'est pas connecté à Internet parce que tout le monde sait qu'on attaque par Internet, donc un autre ordinateur à côté écoute un peu s'il y a des ultrasons dans la pièce, et justement peut récupérer des informations de cet ordinateur qui émet des ultrasons.
Ouais. Écouter cette émission, ça m'a rendu parano quand même.
Voilà, et le titre de la conférence.
Écouter de la musique sans.
Voilà, donc c'est tous les messages là, qu'on est en train de passer à travers la radio. Le titre de la conférence, c'est Hardening Hardware and Choosing a Good BIOS. Voilà, comment nettoyer son ordinateur. Donc, grosse conf, le premier jour, il y a le Tor Network. C'est une revue un peu de ce qui s'est passé sur le réseau Tor. Réseau Tor, on en a pas mal parlé pendant cette émission. C'est un réseau alternatif au HTTP standard d'Internet. Donc, vous installez un logiciel et vous accédez... Vous accédez à. L'année dernière, vous pouviez accéder à Silk Road, et puis maintenant.
Et ils n'ont pas refait un site
Silk Road ? Ah, si, mais c'est toujours. Donc, Silk Road, c'est un site internet qui existait sur le réseau Tor, où on pouvait acheter du manga.
Et des sandwichs.
Et donc, ce site a été fermé en août dernier. Depuis août, il y a pas mal de sites qui ont été réouverts. Et depuis août, il y a pas mal de sites qui ont été réouverts par la police. Donc à chaque fois ça ferme au bout de 3 semaines quand ils ont commencé à noter quelques adresses et voilà, ça aide pas.
Donc, juste pour sur Tor, il faut dire que donc, l'objectif de Tor c'est vraiment d'être anonyme sur internet et que les utilisations, donc effectivement il y a des choses qui se développent pour vendre de la drogue etc, mais il y a aussi énormément d'utilisations légitimes, y compris dans des ambassades à l'étranger, y compris par des ambassades françaises qui utilisent à l'étranger pour être sûr de passer à travers des filtrages ou des choses comme ça. Donc,
Et dans cette conférence, ils expliquent bien toute la problématique autour des utilisations. C'est que bien qu'on ça puisse servir à des terroristes pour se cacher, dans la majorité des cas, ça sert quand même à beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sans se faire casser la gueule.
Pendant le printemps arabe, c'est là où on a beaucoup entendu parler de Tor. Hein.
En Syrie, il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis grâce à l'utilisation de Tor. Il faut accepter ça quand on met en place ce genre de système sécurisé, que bien que ça permette à des personnes de s'exprimer, dans le mauvais sens du terme, ça permet aussi à beaucoup plus de gens de s'exprimer dans le bon sens.
C'est comme tout, tu vas acheter des couteaux, tu vas faire la cuisine, il y en a qui vont s'entretuer avec.
Voilà, des parasites, toujours des parasites.
Et je ne sais pas s'ils ont parlé des attaques qui ont été menées par la NSA sur le réseau Tor, ils n'ont peut-être pas parlé.
Ils n'en ont pas parlé dans cette conférence, non.
Mais un des points qui est sorti, encore une fois, par les affaires Snowden, c'est que effectivement, la NSA, ils ont des capacités à écouter en masse, mais ils avaient vraiment des outils qui étaient capables de cibler des utilisateurs de Tor et de le rediriger vers des sites pour essayer d'exploiter leur système via des vulnérabilités dans Firefox.
Ils parlaient de quelques personnes justement qui s'étaient fait avoir et leur conclusion c'était que c'était pas lié à leur utilisation de Tor, c'était lié à leur manque de... c'était parallèle à Tor en fait. Ils arrivaient à voir que la personne utilisait Tor, donc pas de problème, ils n'arrivaient pas à le choper là-dessus, mais du coup ils arrivaient à le choper sur d'autres sites qui étaient parallèles à leur utilisation de Tor. Genre, je crois qu'ils utilisaient Hushmail. Hushmail, c'est un service d'email un peu anonymisé et qu'en gros, il y a pas mal de monde qui l'ont utilisé jusqu'à ce que Hushmail ait des demandes de la part du gouvernement américain pour filer des contacts dans leur base de données et ils l'ont fait. Et donc voilà, là, c'est un moment où c'est tombé. Il fallait pas utiliser Hushmail. On continue sur le jour 2. Une très bonne conférence, c'est Fast Internet Scanning with ZMAP. C'est comment scanner la totalité du net, donc les adresses IP. Donc, tout à l'heure, on parlait des DNS. Là, c'est juste les adresses IP. Donc, c'est 8.8.8.8. C'est les DNS de Google, par exemple. Et comment scanner l'intégralité du net en quelques minutes.
Tu vas scanner quoi? Avoir les adresses IP?
Donc tu vas scanner par exemple, tu vas regarder toutes les machines qui ont le port, je sais plus quel numéro c'est pour le port VNC.
Je sais pas, c'est dans les 3000 je crois.
Ouais, VNC c'est un logiciel qui permet de contrôler un ordinateur à distance en voyant le bureau affiché dans une fenêtre de votre ordinateur. Donc tu peux scanner toutes les machines qui sont ouvertes publiquement avec ce truc là. Et y accéder et contrôler la machine. Et donc, par exemple, en conférence, une des conférences de finale, c'était Security Nightmare. Ils ont fait un espèce de slideshow avec une galerie d'images avec toutes les machines qu'ils avaient trouvées grâce à ce logiciel, sûrement. Ils peuvent, en quelques minutes, scanner toutes les machines qui ont ce port là ouvert. Et faire un screenshot de ces machines. Donc c'était assez intéressant.
Ce qui est la grosse amélioration qui a été amenée avec ZMAP et des outils comme ça, c'est qu'avant on savait qu'il fallait beaucoup de temps, il y a des gens qui avaient scanné tout le réseau IPv4, mais c'était avec des centaines de milliers de machines, et c'était en plusieurs mois. Et là, en enlevant une couche du système d'exploitation, en faisant des choses manuellement que le système faisait automatiquement, ils sont arrivés à augmenter. Puis à l'augmentation des débits, notamment le débit qu'il y avait,
Il y avait
au CCC, il y avait 100 gigabits.
100 gigabits, ouais.
Et voilà, donc on en arrive à faire un scan de port sur toutes les adresses IPv4.
5 minutes.
Ouais. 5 minutes, ouais, c'est impressionnant. Et donc, du coup, c'est vrai que les possibilités, il y a énormément de choses fun qui doivent se développer pour arriver à faire disons, de la cartographie, de regarder ce qui se passe sur Internet. Alors, je sais qu'une des utilisations, c'est pour TLS, c'est d'ailleurs faire regarder tous les certificats et faire des analyses de tous les certificats. Mais avant, ça prenait des mois. Maintenant, en quelques minutes, il y a des gens qui font ça tous les mois, qui les mettent en ligne. On peut faire ces analyses régulièrement.
Et à une
100
des...
gigabits, c'est énorme quand même.
Ouais, 100 gigabits, c'est assez énorme. C'est, je croyais qu'il parlait de l'équivalent de la sortie de l'Afrique.
Non, l'Afrique a un tout peu... le continent africain, le tuyau de sortie fait à peu près 100 gigabits.
L'accumulation
quoi.
Des tuyaux de sortie, ouais, ça faisait dans les 100 gigabits.
C'est énorme.
Enfin, c'est une comparaison pour donner un peu une estimation de l'énormité du truc. Et une des utilisations dont il servait là, de ZenMap ou de Mascan, c'était pour, par exemple, quand il y avait eu un ouragan à New York, ils pouvaient voir les machines s'éteindre petit à petit. Donc, comme ils avaient un truc qui tournait en 5 minutes, ils pouvaient en 5 minutes voir toutes les machines qui s'éteignaient et donc suivre le passage d'un ouragan.
D'accord.
Intéressant. Comme il y a beaucoup de machines connectées sur Internet, on peut vite voir lesquelles s'éteignent et quelles s'allument.
Il faut quand même dire que c'est le réseau IPv4, donc c'est quasi tout Internet aujourd'hui, mais il y a IPv6 qui est une nouvelle version qui est en train d'arriver et qui elle, a des milliards d'adresses en plus et ça n'y aura plus possible le jour où on passera, oui, si on y passe un jour sur IPv6.
Je vais aller un peu plus vite. Hillbilly Tracking of Low Earth Orbit. Donc c'est quelqu'un qui achète une antenne de bateau pour faire du radar. Et il s'en sert pour connecter rapidement scanner rapidement le ciel en suivant les satellites et voir qu'est-ce que les satellites envoient comme information. Et tout ça, il le log et peut-être qu'un jour il pourra décrypter toutes ces informations, mais au moins c'est pour suivre un peu ce qui se passe sur les satellites et voir s'il y a des informations intéressantes ou pas. Alors, une des meilleures confs que j'ai vues cette année, c'était Seeing the Secret State, Six Landscapes. C'est par Trevor Paglen, un historien, artiste, géographe, écrivain américain, qui raconte comment il rend visible les sociétés secrètes américaines. Donc, sociétés secrètes, c'est pas des trucs de conspiration, c'est plus la CIA, comment la CIA récupère des gens dans des avions pour les envoyer dans des prisons secrètes. Et tout ça, comme c'est des avions, c'est super documenté. On sait les avions d'où ils décollent, où ils vont, par quelle compagnie ils sont... quelle compagnie les autorise à décoller ou pas. Et donc, il raconte plein de choses comme ça vraiment bien.
Donc en fait, le mec, il voit les déplacements des gars de la CIA par les avions, ça ?
Non, oui, en se documentant juste. Vu que l'aviation, c'est un domaine super documenté,
oui.
il va chercher vraiment toute la documentation liée aux sociétés qui font des vols long courrier, par exemple, dans les bases américaines. Oui. Et il voit des sociétés un peu bizarres, du coup, il continue à chercher dans ces sociétés bizarres, il voit dans quelle mesure les avions de ces sociétés... vont à tel endroit ou à tel endroit.
D'accord.
Et du coup, là, dans tous ces bruits, il détecte un signal qui montre qu'il y a des déplacements un peu chelous et qui sont certainement liés à des prisons secrètes utilisées par les Américains. Donc à un moment, et à la fin, il arrive au Liban, je crois, et il photographie l'extérieur d'un bâtiment avec des gens de KBR. Enfin, KBR, c'est une société de sécurité américaine qui protège un bâtiment lambda dans une banlieue d'une grosse ville libanaise.
D'accord.
Donc très intéressant, très très bonne conférence. Vite pour arriver à la NSA, il y a le cassage des SD cards. Donc les SD cards, c'est ce que vous mettez dans votre appareil photo. Il y a un petit microcontrôleur dedans que vous pouvez programmer et faire des trucs marrants avec. Data Mining for Good, très bonne conférence aussi de quelqu'un qui a participé à la prosecution d'un ancien premier ministre du Guatemala. Et qui a utilisé le data mining, donc c'est récupération de grosses bases de données, pour montrer qu'il y avait vraiment eu un génocide pendant sa prise de pouvoir de ce premier ministre. Donc il explique qu'est-ce que c'est beaucoup de données et comment on peut en extraire des données intéressantes pour montrer qu'il y a vraiment de la... du génocide. Et dernière, pour conclure, une des plus grosses conférences était To Protect an Infect, part 2, par Jacob Applebaum. Donc Jacob Applebaum qui, voilà, hacker, Tor, qu'est-ce que c'est d'autre, Wikileaks, il était porte-parole de Wikileaks à un moment, qui a fait une revue du catalogue technique de la NSA qui était sortie le même jour dans Spiegel, un magazine allemand. Et qui montre tout plein de technologies dont on a commencé à parler tout à l'heure. Et on voulait parler de, par exemple, quand vous commandez un ordinateur portable sur Amazon, l'ordinateur portable peut, enfin en tout cas aux États-Unis, peut être intercepté et possiblement ils peuvent remplacer les coques en plastique de l'ordinateur pour y inclure des mouchards et des choses comme ça.
C'est bien.
Et voilà, et son catalogue de technologies est assez malade. Je vous conseille de voir cette conférence. Et si vous voulez un truc un peu moins technique, vous pouvez voir la conf d'un avocat de l'EFF, c'est Electronic Frontier Foundation, c'est l'équivalent de la Quadrature du Net aux États-Unis, un peu plus gros, un peu plus balèze, et qui montre tout ce qu'ils connaissent de Prism. Et voilà, il y a pas mal de choses à voir, et qui parle par exemple des métadatas. On en a parlé, je sais pas si on a parlé déjà des métadatas. Métadatas, c'est quand vous passez un appel, vous avez les métadatas, c'est l'heure de l'appel, la personne à qui vous a appelé, tout ça. Et que c'est plus intéressant probablement d'écouter les métadatas, de garder les métadatas, que garder le contenu de l'appel. Parce que si vous gardez le contenu de l'appel, bon, bah, faut le décrypter, il faut quelqu'un qui le tape et tout ça. Alors que si vous gardez juste les métadatas, vous savez par exemple que quelqu'un à telle heure a appelé à l'au-suicide et il n'y a pas besoin de savoir le contenu de l'appel pour que ce soit qu'on devine le contenu.
Et les exemples étaient assez parlants, ouais, comme à l'au-suicide, juste avec des exemples de métadata, on sait pertinemment ce qu'a fait la personne.
Carrément.
Bon, là il faut qu'on coupe. Donc on rappelle l'agenda.
L'agenda. Donc,
demain soir, Drink and Draw à la mécanique du fluide. Des fluides.
Yep.
Et soirée code aussi demain soir.
Et soirée code au bikini, donc faut commencer par Drink and Draw et finir à la soirée code.
Avec
au
une
bikini.
Installation du Theta Lab.
On prend le métro, comme ça il n'y a pas de problème. Et j'allais dire comme tous les mercredis, mais on n'est pas mercredi.
Comme tous les mercredis prochains.
Comme tous les mercredis prochains, le Theta Lab, vous pouvez venir. C'est à Mixer Miris, 2 rue Ferdinand Lassalle.
12 rue Ferdinand Lassalle.
12 rue Ferdinand Lassalle.
À partir de 21h.
À partir de 21h. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci et à la prochaine fois.
Merci de votre venu et on continue avec Canal Flamenco. C'est parti.